En reprenant le témoignage que nous a fait Aurore, avec cette idée d'un Dieu qui est comme un ami fidèle qui est à nos côtés, eh bien j'ai cherché dans l'Évangile comment est-ce que Jésus-Christ peut nous commander d'aimer. Comment se forcer à aimer quand on n'en a pas envie? Est-ce que nous pouvons être l'ami fidèle de tout le monde? Alors pour le comprendre, il nous faut reprendre la distinction que vous connaissez peut-être déjà, si vous avez déjà entendu une ou deux prédications, ou si vous connaissez le grec. Hein. Distinction entre deux mots grecs différents pour parler de l'amour, deux mots grecs différents qui sont utilisés dans l'Évangile. Alors il y a l'amour agapé, comme dans ces commandements du Christ, « Aimez vos ennemis » ou « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est ces textes que je vais vous lire maintenant. Et puis il y a l'amitié, la philia, c'est ce que Jésus aussi évoque quand il nous dit « Vous êtes mes amis » dans le texte que je vais vous lire. Alors, assez souvent dans les prédications chrétiennes, on peut lire, ou dans les commentaires, on peut lire que l'agapé est l'amour supérieur, l'amour divin, l'amour que seul l'Esprit-Saint peut mettre dans notre cœur. Cela me semble un peu simple, et cela me semble même un peu déresponsabilisant. Au contraire, il me semble que l'agapé est quelque chose qui est tout à fait à notre portée, en général, sauf des circonstances exceptionnelles. Et que c'est pour ça que le Christ nous commande d'aimer, d'agapé. Et il me semble que c'est la philia, l'amitié, qui est proprement divine, que c'est elle qui est de l'ordre de la grâce de Dieu, et que c'est cette philia qui est au-dessus de tout, et que c'est cette philia qui est effectivement l'amour que Dieu a pour nous et qu'il nous accompagne, oui, comme un ami fidèle, mettant sa main sur notre épaule. Alors pour réfléchir sur ces notions, je vous propose d'entendre d'abord dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est-à-dire dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, ce commandement incroyable de Jésus-Christ qui nous recommande d'aimer nos ennemis. Alors Matthieu 5, à partir du verset 44. Jésus nous dit « Je vous dis, aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors ensuite, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, je vous propose de lire les 17 premiers versets. Alors c'est un passage essentiel, car c'est un peu le testament spirituel de Jésus, juste quelques heures avant d'être arrêté et exécuté. Il dit ces quelques paroles à ses disciples. « Moi, je suis le vrai cep, nous dit Jésus-Christ. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, « demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, alors vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, Vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au cantique 287 dans le petit recueil Louanges et prières, ce cantique dont nous connaissons bien l'air, donc grâce à Jean-Sébastien Bach, « Bienheureux qui t'aime ». Les trois premières strophes du cantique 287. Ah non, c'est pas ça, si. Attendez, c'est peut-être pas le 287, il y a peut-être une erreur là-dessus, non ? 289, hein. Bienheureux qui t'aime, désolé. 289. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour le pain que nous avons pour manger. Merci pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. Alors regardons d'abord ce fameux amour agapé dont le Christ nous commande d'aimer notre prochain, même quand c'est notre ennemi. Eh bien, c'est finalement, à mon avis, très simple et très concret. L'apôtre Paul explique. Quand ton ennemi a faim, ben, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. En général, c'est quand même faisable d'avoir un petit geste comme ça. Eh bien, l'agapé, c'est ça. Sauf dans des cas extrêmes, avec des ennemis absolument épouvantables, c'est quand même faisable. C'est quand même possible de faire un petit geste, c'est à notre portée. Prenons par exemple un professeur des écoles, je ne sais pas. Il peut y avoir des élèves qui ne lui sont pas sympathiques, que ce soit pour des raisons objectives, car ils ont un comportement un peu problématique, ou bien pour des raisons obscures et plus ou moins conscientes. Ben, le professeur, c'est sa mission, il doit quand même s'occuper au mieux de chacun de ses élèves. C'est son devoir et la plupart des professeurs le font très bien. Alors ensuite, bien entendu, nous faisons comme nous pouvons et puis nos forces sont limitées. C'est vrai que nous n'avons pas tellement envie d'aller chercher à faire du bien pour nos ennemis. Mais c'est à notre portée de faire un geste quand même, au moins d'essayer de leur faire un peu de bien. De faire un geste, voilà. Sinon, nous dit Jésus-Christ, eh bien, on peut quand même essayer de prier pour notre ennemi. Bon, ça, c'est encore plus facile, j'allais dire. Prier pour la personne qui ne nous aime pas, qui nous a fait du mal. C'est quand même pas impossible à faire. Prier. On s'isole un petit peu, on pense quelques minutes à Dieu, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait pour nous, à ses qualités. On y pense quelques minutes et puis, hop, sans transition, on pense à cette personne qui est comme une pierre sur notre cœur. On y pense en évitant si possible de lui vouloir du mal dans la prière. On pense à lui tout simplement. Jésus nous propose de prier pour lui, en faveur de lui. Bon, alors ça nous demande un petit effort, bien sûr, mais il me semble que ça, c'est quand même faisable, non, de prendre quelques minutes pour prier pour notre ennemi. Alors ça ne l'améliorera peut-être pas, d'accord, mais nous, en tout cas, nous avons une chance d'être un peu libérés de ce poids. Et peut-être que nous pourrons ensuite, grâce à une force nouvelle, tenter d'avoir ce petit geste, geste qui lui fasse du bien, directement, de face à face, au risque de prendre encore, oui c'est vrai, encore un coup dans la figure. Mais bon, cette façon d'aimer d'agapé, c'est ce que Jésus nous propose. C'est ce qu'il nous propose aussi dans cette allégorie de la vigne, alors du cep et des sarments que nous avons entendus en Jean 15. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit-il, juste après avoir expliqué que sa vocation à lui, c'était d'être comme un cep. Alors j'aurais dû dire pied de vigne, parce qu'il y en a qui peuvent le prendre pour un champignon, mais donc c'est Jésus-Christ se compare à un pied de vigne et il compare les autres à des branches de la vigne. Et donc, quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ça veut dire qu'on doit être pour les autres comme un pied de vigne qui apporte un peu de sève aux autres, pour les aider à pousser. Et Jésus insiste « Je ne suis pas le vigneron. Ce n'est pas à moi à tailler la vigne, mais c'est à Dieu lui-même et à Dieu seul. » Ma vocation, nous dit-il, est donc la vôtre, en vous aimant mutuellement d'agapé. C'est une mission beaucoup plus simple. C'est simplement d'offrir un peu de sève pour que l'autre puisse se développer. Alors c'est un petit geste, peut-être, une petite parole, voire simplement une petite prière. Alors l'autre peut refuser ce geste. Alors ce serait dommage de sa part, mais finalement s'il refuse ce petit geste que nous avons essayé de faire, ce petit geste d'agapé, ben c'est son problème, c'est son choix, ou c'est sa maladie peut-être. Donc Jésus nous propose d'aimer ainsi, d'aimer d'agapé avec des petits gestes positifs. Alors c'est vrai qu'il y a aussi de mauvaises choses à enlever dans l'autre, dans celui qui est méchant contre nous, bon. Ce n'est pas l'envie qui nous manquerait, bien sûr, de critiquer, de vouloir enlever ses défauts, de les arracher. Mais, nous dit Jésus-Christ, ce n'est pas notre boulot. De nombreuses paroles de Jésus le rappellent tout au long de l'Évangile. L'histoire de la paille et de la poutre, l'histoire de la parabole de l'ivraie et du bon grain, il dit « c'est pas facile d'arracher l'ivraie parce que ça risque de tout enlever avec. Vous risquez d'être source de mort. » Dieu, lui, il sait le faire, quand il faut le faire, et donc c'est sa mission, c'est pas la nôtre. Chacun sa mission, et se prendre soi-même pour Dieu, c'est pas une tellement bonne idée, ni pour notre santé mentale, ni pour notre entourage. Donc Jésus nous commande simplement, j'allais dire, d'aimer d'agapé, d'aimer en ayant des petits gestes, des offres de service pour l'autre. Alors il nous commande aussi, c'est pas toujours plus facile. Il nous commande aussi de nous laisser aimer d'agapé par les autres, de saisir les occasions finalement que nous offrent les autres de progresser nous-mêmes, une parole positive, une parole d'amour, un petit geste, et ainsi de nous aimer mutuellement les uns les autres comme lui, il nous a aimés, comme un pied de vigne. Aimer d'agapé, c'est ainsi un commandement de Jésus. C'est simple, c'est concret, c'est efficace. Et le pire, c'est que c'est à notre portée. Sauf des circonstances exceptionnelles, je veux bien le reconnaître, mais en général, dans la vie courante, c'est faisable. Alors nous sommes disciples de Jésus. Eh bien, essayons d'avoir ces gestes simples avec nos proches, ceux qui nous sont confiés pour que nous les aimions. Et puis avec nos ennemis aussi, avec les gens qui ont été mauvais avec nous, eh bien ils nous sont confiés aussi parce qu'ils nous ont fait du mal, donc ils sont nos ennemis, donc nous pouvons avoir, nous dit Jésus, un geste. Ça fait avancer les choses. Et si nous avons failli dans la journée à ce commandement de l'agapé, bon ça arrive à tout le monde, bien sûr, eh bien que le soleil ne se couche pas sur ce manquement finalement et que nous ayons pensé, oui, à prier pour notre ennemi du jour et que nous ayons demandé à l'aide de Dieu, finalement, pour nous aider à avancer et à avoir un peu d'agapé. Cette petite prière de repentance à la fin de notre journée, ce n'est pas non plus hors de nos forces, hors de notre portée. Donc ce cheminement, ces commandements que nous propose le Christ, ce n'est pas des prodiges absolument infaisables, oui, nous pouvons aimer d'agapé tous les jours. La loi que propose ici Jésus-Christ à ses disciples, à nous, est simple, c'est d'aimer d'agapé, mais ce texte va plus loin. Et les choses se compliquent alors, oui, Jésus parle de l'amitié, il parle de la philia, et ça, c'est autrement plus compliqué. Parce qu'avoir de l'amitié, ça ne se contrôle pas. Voilà. L'amitié, cela n'a plus rien à voir avec cette attitude du professeur qui va s'occuper de chacun de ses enfants, même de celui dont la tête ne lui revient pas. Ce n'est plus du devoir de faire des choses pour avoir un geste. Aimer d'amitié, c'est une grâce. C'est se réjouir de faire une bonne surprise à l'autre. Voilà. C'est avoir le cœur qui saigne quand l'ami manque de quelque chose. Et oui, ça, l'amitié, ça ne se commande pas. Alors c'est formidable quand nous pouvons ressentir cette qualité de relation, se sentir aimé ainsi, ou bien sentir que l'on aime ainsi quelqu'un d'autre, avec cette pureté de sentiment, avec cette gratuité, avec cette générosité de l'amitié. Et même dans le couple, quand il peut y avoir de l'amitié, eh bien ça donne une qualité de relation formidable. Là, oui, nous pouvons alors, sans nous forcer, aimer encore notre meilleur ami, même quand il a été pénible, même quand il nous a blessés. Oui, alors nous pouvons continuer à l'aimer sans se forcer, plus par devoir, mais dire simplement, naturellement, comme ça, continuer à le respecter, continuer à lui vouloir du bien, même quand il nous a blessés. Alors la bonne nouvelle de l'évangile du Christ, c'est que Dieu nous aime d'amitié. Il nous aime de cet amour qui est au-delà du simple devoir, comme si Dieu était un professeur qui faisait son devoir, voilà, qui s'occupe des gens parce que c'est son boulot. Non, il nous aime de cet amour-là qui est au-delà du devoir. Un amour enraciné dans le cœur, enraciné dans les tripes, pas seulement dans la tête, dans le conscient. Un amour fondé sur la grâce, et non sur le devoir. Un amour qui est au-delà de la bonne idée parce que ça embellit la vie, non. Un lien d'amitié. Un lien d'amitié qui permet à Dieu d'être vraiment notre ami qui est à nos côtés, qui a sa main sur notre épaule. Mais aussi ce lien d'amitié qui permet à Dieu d'être notre vigneron. Et de pouvoir nous élaguer, nous émonder, comme le dit Jésus dans ce passage. Il n'y a rien à craindre dans ce passage, comme si on allait être arraché tout entier au salut. Bien sûr, Dieu est notre ami, il ne fera pas ça. Mais il est question de tailler, d'élaguer ce qui nous fait souffrir, ce qui est mauvais en nous, ce qui nous empêche de pousser. Et seul, sur ce fond d'amitié, on peut alors, oui, émonder, élaguer, sans tuer. Car quand c'est un véritable ami qui nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, nous sentons bien que c'est par amour qu'il a parlé en vérité, même si ça nous blesse. C'est par amour qu'il a fait cet effort de sincérité, mais on sent bien que c'est pour nous faire du bien. C'est avec affection, c'est avec tendresse, c'est avec confiance, confiant que l'amitié sera plus forte que ces paroles difficiles à entendre. Et alors oui, même les reproches peuvent alors nous aider vraiment, sans qu'ils nous atteignent dans le sentiment de notre propre dignité, de notre propre valeur, sans que ça blesse notre amitié. Alors nous pouvons, nous devons aimer d'agapé notre prochain. Nous n'avons pas à culpabiliser si nous n'avons pas de l'amitié, de l'amour filia pour notre prochain. Ça peut arriver, bien sûr. Personne ne peut nous demander de trouver tout le monde sympathique, et encore moins de trouver sympathique la personne qui est notre ennemi, qui vient nous casser les pieds, qui encore et encore vient nous ennuyer. Et Dieu ne nous demande pas de l'avoir de l'amitié pour tout le monde, de la sympathie pour tout le monde. Dieu nous aime d'un amour agapé, certes, à un degré que nous ne pourrons bien sûr jamais égaler, comme un éducateur d'une compétence infinie, qui a des forces, des moyens infinis, et il s'occupe de chacun des enfants qui lui sont confiés avec une force, une capacité, une compétence merveilleuse, d'accord. Mais Dieu nous aime également d'un amour filia. Et ça, c'est une nouvelle absolument formidable. Nous pouvons compter sur Dieu comme nous pourrions compter sur le meilleur des amis du monde, le plus fidèle des amis. Et c'est ça que nous montre Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous dit et qu'il montre par ses actes, par sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que cet amour-là, bien sûr. L'amour de l'ami le plus fidèle. Cet amour peut aller même jusqu'à donner sa propre vie pour son ami, nous dit-il. Et Jésus sait très bien de quoi il parle, il s'est vraiment concerné. Cet amour filia va jusqu'à dire les choses franchement à l'autre, dévoiler peut-être les choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et c'est ainsi que Jésus annonce aux disciples qu'il leur a tout révélé, qu'il leur a dit tout ce qu'il savait sur Dieu. Alors on sent comme un scrupule, un petit peu, comme un regret peut-être, une hésitation dans cette remarque de Jésus, comme s'il avait pris des risques en disant tout ouvertement aux disciples. Et c'est vrai qu'il a pris des risques. En révélant que Dieu nous aime d'amour filia et non seulement d'amour agapé, Jésus se prive en tant qu'éducateur d'absolument tout moyen de pression, de toute menace, de toute punition possible. Dorénavant, nous n'aurons plus aucune raison d'avoir peur de Dieu. Un ami est un ami, et quand on a un véritable ami, quand on sait que c'est notre meilleur ami, eh bien nous n'avons rien à craindre de lui, on a confiance. On sait que même s'il nous arrivait de le décevoir, l'amitié serait la plus forte. On pourra compter sur lui quand même. On sait qu'il donnerait même sa vie pour nous. L'amour parfait rend impossible la crainte, nous disent les apôtres en plusieurs endroits du Nouveau Testament. Jésus prend donc, oui, des risques en disant et en montrant que Dieu ne nous aime pas seulement de l'amour agapé, mais qu'il nous aime de l'amour amitié, de l'amour filia, comme un véritable ami. Alors quel éducateur prendrait un tel risque de dire aux élèves, à la rentrée scolaire, « Quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais ni chassé de l'établissement, ni puni. Vous serez toujours admis à poursuivre votre cursus. Quoi qu'il se passe, vous serez estimé, vous serez reconnu, vous serez choyé comme faisant déjà partie de l'élite, car vous avez déjà été reçu, déjà sélectionné, déjà diplômé. » Eh bien, c'est pourtant ce que fait Jésus ici. « Vous avez déjà été choisi, nous dit-il. » Alors oui, après cela, après cette révélation, si nous suivons sa parole après son témoignage, si nous cherchons à obéir à ses commandements, ce ne sera plus comme un serviteur qui obéit à son maître pour avoir le salaire ou parce qu'il a peur. Non. Maintenant, si nous suivons les paroles du Christ, eh bien, ce sera parce que nous l'aimons, lui, le Christ. Le Sauveur que Dieu nous a envoyé, eh bien, pour nous montrer combien Dieu nous aime et ce que c'est que vivre en chrétien, en humain. Donc, il nous a montré que Jésus-Christ aime en ami. Et cela change, je crois, profondément la nature même de la façon dont nous obéirons à ce commandement d'aimer, à ce petit geste d'agapé, puisque nous ne le ferons plus par crainte, nous ne le ferons plus comme un serviteur. Ce petit geste d'agapé que nous faisons pour notre prochain, qui lui n'est pas toujours très sympathique, eh bien ce petit geste d'agapé, ce sera alors du bénévolat. Eh bien cela se sent quand ça vient comme un acte gratuit, comme du bénévolat. Alors que si ce geste était basé sur la crainte de Dieu, si ce geste était basé en se disant « bon, il faut que je le fasse parce que sinon je n'aurai pas la prime », eh bien notre geste d'agapé serait encore finalement de l'égoïsme, et l'autre le sentirait très bien aussi. Il me semble donc dangereux de surévaluer l'amour agapé et d'en faire quelque chose de divin, de quelque chose qu'il faudrait que Dieu nous mette absolument dans le cœur par son esprit pour que nous en soyons capables. Car alors, devant telle personne pénible, nous aurions de beaux jeux de penser ou de dire, ou même plus ou moins inconsciemment, eh bien, je n'arrive pas à avoir un geste pour telle personne, je n'arrive même pas à prier pour lui, ce n'est pas ma faute, simplement je ne le sens pas, eh bien, Dieu a qu'à me mettre à cœur de l'aimer, et puis comme ça, après, je le ferai. Eh bien, c'est une mauvaise excuse. Il n'est pas question de savoir si ça nous amuse d'avoir un geste positif pour l'autre. C'est à notre portée de le faire. Le Christ nous dit que c'est une bonne idée de le faire. Alors, si nous aimons le Christ, si nous lui faisons confiance, faisons le geste que nous voulons, mais faisons un geste. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la cohérence. C'est la règle du jeu que nous avons choisi. Si on n'aime pas l'idée de taper, je ne sais pas moi, de taper sur une balle avec une raquette, eh bien, on ne joue pas au tennis. Nous avons choisi comme règle d'essayer l'agapé, car nous aimons Jésus-Christ. Donc, on peut essayer d'avoir un geste pour ceux qui nous entourent, pour notre ennemi. Par contre, oui, avoir un cœur qui aime de réelle amitié, c'est autre chose. Pour progresser dans ce domaine, nous ne pouvons pas nous forcer, ça oui, c'est vrai. Nous pouvons juste le recevoir de Dieu comme une dimension nouvelle. Il peut nous donner ce cœur de chair. Nous pouvons lui demander de nous envoyer son esprit pour que nous ayons un cœur de chair, un cœur capable d'amitié, un cœur capable de sympathie, même pour les gens les plus pénibles. Et oui, pour notre prochain, qui trop souvent, c'est vrai, n'est pas si sympathique que ça, eh bien, cette amitié vraie que pourra nous donner Dieu. Cette amitié vraie nous donnera d'avoir un geste, une parole qui vient du plus profond de notre cœur, et ce geste sera alors parfois une vraie source de résurrection. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen. Thank you.